Je voudrais intervenir parce que je suis très surpris de la question et de la réponse. Écoutez, franchement, moi j'apprends à mes étudiants que c'est les crédits qui font les dépôts, que la monnaie est créée non pas par la banque centrale, mais par les banques commerciales. Et que la banque centrale transforme de la monnaie, mais ne crée pas de la monnaie. Et quand je regarde, quand je leur projette le bilan de la BCE et la Banque de la Réserve fédérale, je m'aperçois que la BCE a un bilan qui a augmenté plus vite à un moment donné que celui de la Réserve fédérale, qu'en ce moment, le bilan de la BCE a baissé de 500 milliards d'euros à peu près, mais que simultanément, la masse monétaire en zone euro augmente plus vite que la masse monétaire aux États-Unis. Donc, pour moi, la création de monnaie, c'est les banques commerciales, et donc ce n'est pas un problème de banque centrale. Donc, je suis surpris de ce débat. Et donc, pourquoi est-ce que les banques ne créent pas de monnaie? Elles disent, écoutez, vous prenez les banques françaises, par exemple. Elles ont un encours sur les entreprises françaises de 880 milliards d'euros. Cet encours a augmenté l'année dernière de 4 milliards d'euros. Est-ce que les banques disent c'est la faute de la Banque Centrale Européenne? Pas du tout. Les banques disent c'est parce que on n'a pas de dossier. Et quand vous regardez les statistiques de la Fédération bancaire, elle satisfait 87% des demandes qui lui sont faites. C'est un taux de satisfaction historique. En général, on est entre 75 et 80% et en ce moment, on est à 87%. Alors, on rentre là, effectivement, dans l'analyse qui est ce que j'appelle, effectivement, la croyance. C'est-à-dire, et je trouve que là, votre grille d'analyse est intéressante parce que, à un moment donné, vous parlez du bouc émissaire. Et là, je rejoindrai, en revanche, ce que disait Gérard Marek. C'est facile de dire que c'est la faute de la Banque Centrale Européenne. C'est facile de dire que c'est la faute des Allemands parce qu'à partir de ce moment-là, vous êtes totalement déresponsabilité de votre politique. C'est pas vous, c'est les sadomonétaristes de Francfort. D'ailleurs, franchement, quand j'entends votre discours, mais qui est poli, organisé, intellectuel, mais nos hommes politiques, c'est on va chercher le gouverneur de la Banque Centrale dans des asiles psychiatriques. À les entendre, M. Trichet était un psychorigide malade, qui relevait de la psychanalyse à haute dose. M. Draghi est un mélange entre un psychorigide et un escroc, qui ment aux Allemands, et qui plus est d'ailleurs, il a appris ça chez Goldman Sachs. C'est quand même inquiétant, non? Il a été à bonne école, c'est quand même inquiétant. Parce que c'est eux qui les choisissent, c'est eux qui les nomment, et ils nous disent, écoutez, non mais c'est normal, monsieur Draghi, donc c'est une crapule, un salaud, un voleur, un ancien de Goldman Sachs, mais il a au moins un atout, c'est que comme il est sournois, il trompe les Allemands. Non mais attendez, quelle est la vision que l'on donne du fonctionnement de ce système? Donc cette vision est idiote. Donc le véritable enjeu, ce n'est pas ce que fait la Banque Centrale Européenne, parce que, vous comprenez, la Banque Centrale, vis-à-vis de l'austérité, c'est facile. Quand vous êtes devant vous et moi, là, on reçoit notre feuille d'impôt, on fait les calculs et on comprend. On va payer plus cher. Quand vous avez quelqu'un qui nous dit, écoutez, le véritable problème, que c'est que sur le programme OMT, M. Draghi n'est pas assez à la hauteur. En revanche, il a fait ce qu'il fallait sur le LTRO, encore que sur le LTRO, depuis 2 mois, il a un peu cédé. Vous y comprenez ? Rien. Donc là, c'est plus de la croyance, c'est ce que j'appellerais de l'escroquerie. Et donc, je maintiens, pour conclure, la banque centrale ne crée pas de monnaie, elle transforme la monnaie, mais elle ne crée pas de monnaie. C'est les banques commerciales qui créent de la monnaie en faisant des crédits. Le problème, c'est pourquoi est-ce que, quand on regarde la situation des banques dans ce pays, on a augmenté de 4 milliards les demandes des banques vers les demandes des entreprises vers les banques. Et pour moi, c'est parce qu'on les matraque à coups d'impôts sur les sociétés. Et puis alors, on a une fiscalité qui est devenue quantique. Vous savez, en mécanique quantique, on ne peut pas observer à la fois la position et la vitesse d'une particule. À l'heure actuelle, nous avons une fiscalité dans laquelle vous ne pouvez pas observer à la fois le niveau d'impôt que vous allez payer et anticiper celui que vous paierez l'année prochaine. Si vous avez compris ce que vous allez payer l'année prochaine, vous comprenez pas ce que vous allez payer cette année. En revanche, si vous arrivez à comprendre ce que vous allez payer cette année, l'année prochaine, vous êtes dans le bleu total. Et donc, c'est ça le problème. Alors, nous raconter M. Trichet était un malade mental et M. Draghi est un escroc, mais heureusement, il est en train de blouser les Allemands, je dis non.
Je suis un peu perdu dans la discussion, là. Je veux dire, c'est un peu trop. Ça va trop vite pour moi. Moi, ce que je voulais dire simplement sur la BCE, c'est que, bon, moi, je trouve pas inintéressante votre réflexion sur le sujet de la rigidité allemande vis-à-vis des problèmes de l'inflation et la crainte des excès de création monétaire, et en tous les cas, de l'interprétation qu'on peut essayer de trouver à cette crainte. Non, moi, ce que je voulais dire d'un point de vue plus économique, simplement, c'est que la BCE, c'est vraiment la seule entité fédérale qui existe au niveau de l'Europe. Quand on regarde ce qui est fédéral en Europe, c'est les réglementations dans certains domaines, et seulement dans certains domaines, et la BCE. Et d'une certaine manière, on a complété ce fédéralisme, à la fois effectivement avec des mécanismes d'ailleurs compliqués comme ceux qu'a cité Jean-Marc Daniel, l'OMT, tous ces mécanismes compliqués, le RTRO, l'OMT, etc. C'est surtout l'OMT qui est un phénomène nouveau. Et en même temps, on l'a complété par l'union bancaire, qui est aussi un élément qui va contribuer au fédéralisme, aussi bien par l'unification monétaire et structurelle que ça implique, que par les systèmes de résolution des banques ou les systèmes de garantie des dépôts qui doivent suivre, ou les systèmes de ce qu'on appelle le bail-in, enfin de la manière dont on traite les banques en difficulté. Donc si vous voulez, tout ça, c'est des formes de fédéralisme, et je dirais c'est le seul progrès de fédéralisme qu'on observe. Et malgré tout, moi, je constate que la chose sur laquelle on s'est appuyé totalement pendant cette crise, c'est la BCE. Peut-être à l'excès, peut-être en s'appuyant sur des escrocs ou des psychorigides, mais en fait, on s'est appuyé sur la BCE, qui est la seule institution fédérale aujourd'hui en Europe.
J'ignorais que Jean-Marc Daniel était un partisan du free banking, voire à la limite du bitcoin. C'est-à-dire, il imagine qu'un système monétaire peut fonctionner sans banque centrale, puisqu'au total, elle ne crée pas de monnaie. Et que,
qu'on peut fonctionner sans banque centrale. Je dis que la banque centrale, elle se contente de transformer une partie de la monnaie créée par les banques en monnaie banque centrale.
En l'occurrence, le bilan de la réserve fédérale américaine a progressé dans des proportions considérables par le fait qu'elle a racheté des titres de toutes sortes, des titres publics comme des titres privés, et que son bilan a énormément augmenté par le simple miracle du stylo du monsieur Bernanke, qui a pu, par un jeu d'écriture, faire entrer dans son bilan.
Oui, mais la BCE a fait la même chose.
En émettant de la monnaie. La BCE a fait la même chose, mais pas dans les mêmes proportions.
Elle n'a pas émis de la monnaie, elle a transformé de la monnaie qui avait été émise, et la quantité de monnaie qui s'appelle M3 qui est en circulation.
En rachetant des titres publics sur le marché secondaire, j'en conviens, il y a une véritable création monétaire.
On ne va pas se disputer, mais enfin, M3 n'a pas augmenté. M3 a augmenté.
Non, mais ça, c'est une autre affaire.
Ah, mais si, c'est ça, la quantité de monnaie en circulation.
Non, mais ça, c'est une conséquence. La politique monétaire qui a été conduite, alors je regarde de façon très naïve, la politique monétaire très libérale, non conventionnelle, menée aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ont produit des effets sur l'économie de ces deux pays. Ces deux pays sont en reprise forte, régulière, alors que l'Europe reste enlisée. Alors elle est enlisée, pas seulement du fait de la Banque centrale, mais pour toutes sortes de raisons. Mais la Banque centrale, elle, a été très timide, et c'est seulement maintenant qu'elle commence à faire bouger les lignes. Parce que auparavant, le sauvetage des pays n'était pas conduit par la Banque centrale, mais par des accords interétatiques qui prenaient différents noms, MES, etc., par des apports des trésors publics au trésor des partenaires. Tandis que là, c'est l'engagement est pris de racheter de la dette publique. Donc il y a un changement qualitatif qui n'est pas absolument pas négligeable. Et les marchés l'ont très bien compris. Ils ont compris que la crise de l'euro était terminée pour l'instant.
Bien. Bon, on a pu illustrer que les économistes ne sont pas forcément d'accord sur tous les sujets. Monsieur.
Oui, je voudrais revenir un peu sur terre, je m'excuse. Mais le débat là a été beaucoup trop élevé pour moi. Michel Gauthier, je me présente. Je reviens un peu aux méthodes, première partie de l'exposé. Moi, j'ai beaucoup de mal à penser qu'on puisse passer de l'individu au groupe. Je pense que la psychanalyse concerne vraiment l'individu, et Freud a montré que ça marchait. Par contre, vouloir appliquer ce modèle au groupe, alors que le groupe est fait d'individus libres, qui ont chacun leur psychisme, ça me choque beaucoup. Ça me choque beaucoup, et je pense que on ne saura jamais si ça marche. Parce que, comme le disait M. Daniel, comme il n'y a pas de quantification possible, le modèle est tellement macro qu'on ne peut pas savoir si l'analyse, finalement, est pertinente ou pas. Et moi, c'est ce qui me gêne beaucoup dans ce qu'a développé M. Lévy-Garbois et M. Marek. Voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce que je suis le seul à avoir ce sentiment ? Et je ne suis pas, d'ailleurs, je ne connais pas très bien la psychanalyse. Hein, je dois avouer, je ne suis pas un fan de la psychanalyse, mais je pense que ce qui marche pour un individu libre, je vois mal comment ça peut marcher pour un groupe d'individus libres et d'une multitude d'individus libres. Alors, je conçois que la psychanalyse soit intéressante pour mieux comprendre le psychisme de l'homo economicus, ça tout à fait, du consommateur, tout à fait, de l'entrepreneur, tout à fait, du président de la République, tout à fait, du dirigeant, tout à fait. Mais par contre, au niveau d'un groupe, je vois mal le bien fondé de cette généralisation. Voilà.
Juste un mot, Vivien va sans doute compléter. De Freud, il ne reste pas grand-chose en termes de cure thérapeutique. En termes de thérapeutique et en termes de cure psychanalytique. Bien d'autres méthodes ont été développées par la suite et sa propre méthode a été très contestée pour différentes raisons. Par contre, ses apports en termes de psychologie sociale, parce qu'il a fait le saut méthodologique auquel nous vous invitons, c'est-à-dire transposer ses analyses développées sur l'individu, les transposer au groupe, et les transposer à la société tout entière. Il a fait déjà ce saut méthodologique dans les ouvrages que je viens de citer. Or, ces ouvrages continuent d'être aujourd'hui une référence, d'être très utile, d'être commenté et d'être à la, je dirais, faire partie de la vulgate aujourd'hui, de la vulgate psychanalytique, de la vulgate freudienne. Paradoxalement, les apports de Freud en termes de, comme thérapeute, il n'en reste pas énormément de choses. Par contre, des textes comme Moïse et le monothéisme ou Malaise dans la civilisation sont toujours des textes, je crois, des textes d'actualité très vivants.
Oui, moi, je suis pas d'accord avec ce que vient de dire Gérard, donc c'est pas grave. Je pense qu'il y a beaucoup de choses quand même de très intéressantes dans Freud, même au niveau individuel. Je pense que on a bien sûr un problème méthodologique. Ce que vous soulevez est évidemment très important. C'est un problème qu'on a en économie pareil, hein, en économie ou en sociologie. On a bien ce sujet de savoir est-ce que on peut faire le passage du micro à la macro, ou est-ce que la macro ne se conçoit que comme le résultat des comportements individuels et de l'interaction des comportements individuels. Je pense qu'aujourd'hui, la vision dominante de la théorie économique, c'est celle-là, c'est celle que vous dites d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est cette idée que c'est les comportements individuels, la somme des comportements individuels qui doit résulter dans une macroéconomie fondée sur des principes microéconomiques, par exemple. Au fond, ce que vous appelez, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est dire, il faudrait, si vous voulez faire de la macro-psychanalyse, il faudrait que ce soit le résultant, la résultante de l'ensemble des micro-psychanalyses, en quelque sorte, de chacun des individus qui constituent les groupes ou les sociétés. En même temps, on sait bien que la macroéconomie a progressé énormément, pas du tout comme ça. Pas du tout à partir de la vision microéconomique, mais à partir d'une vision très macro. Keynes, la révolution de Keynes, ça a été de faire une analyse vraiment macroéconomique, hein, et donc d'avoir des comportements agrégés qui n'étaient pas fondés complètement, en tous les cas, sur la théorie microéconomique que nous connaissons, etc. Hein, et encore aujourd'hui, on rame. Enfin, les économistes les plus formidables mathématiquement, etc., rament comme des fous pour arriver à trouver une manière d'expliquer un certain nombre de comportements agrégés comme la somme de comportements individuels, si vous voulez. Donc, moi, je suis beaucoup plus indulgent, en tout cas, vis-à-vis de moi-même, hein, et de la méthode que nous avons employée, parce que je pense que, d'abord, comme observateur, moi, j'ai observé beaucoup de groupes dans ma carrière, hein, même comme banquier. J'ai observé des entreprises et je vous assure que quand j'étais banquier d'entreprise, chaque fois que j'allais voir un client, un grand client, j'étais frappé de voir que à l'intérieur d'un groupe comme Saint-Gobain, comme L'Oréal, comme je ne sais pas qui, eh bien, il y avait des constantes incroyables. Au-delà des personnalités, du patron, du trésorier, enfin, il y avait une culture de l'entreprise, il y avait une psychologie de l'entreprise qui était étonnamment forte et résistante dans le temps et aux épreuves. Bon, et que je retrouve 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard en revoyant les mêmes entreprises, si vous voulez. Bon, ça, c'est quand même troublant. Bon. Et j'ajoute que, là encore, si vous voulez, je répète ce qu'on a dit tout à l'heure, un peu ce qu'on appelle le principe de similitude, c'est-à-dire que nous considérons que dans ces groupes structurés, il y a la même structure mentale qu'on a à l'intérieur de chaque individu ou de chaque sous-groupe, etc., ou chaque filiale ou chaque quantité de l'ensemble. Bon, et ça donne, c'est aussi un élément possible de cohérence de cet ensemble. On peut dire qu'à l'intérieur d'un groupe, il y a cette cohérence qui est établie et c'est ce qui fait que c'est un peu un groupe. Voilà.
Oui, je voudrais rebondir justement sur cette question de méthode, parce que vous avez beaucoup parlé de Freud, mais vous ne parlez absolument pas de Jung, qui a en fait beaucoup développé la notion d'inconscient collectif et qui a travaillé énormément sur les problèmes de mythes. Et qui a notamment démontré que dans un certain nombre de sociétés qui n'avaient eu aucun contact physique, on retrouvait les mêmes mythes fondateurs. Et donc ma question porte sur le fait, justement, est-ce que votre théorie ne peut pas être étayée par le fait qu'il y a dans les groupes que monsieur identifiait des mythes fondateurs qui sont pérennes et communs.
Oui, enfin, je dirais qu'on a, on s'est beaucoup attaché à Freud parce que, bon, d'abord parce que Freud est quand même le fondateur de la psychanalyse, hein, et que je dois dire qu'on a été aussi fasciné par l'analyse de Freud et par le système conceptuel de Freud. Il a construit un système qui est extrêmement économe en moyens et qui, avec très peu de moyens, arrive à dire beaucoup de choses. Hein, donc c'est très impressionnant, si vous voulez, comme construction intellectuelle, Freud. On a vu beaucoup de choses après. Hein, et d'ailleurs, je pense que ni Gérard ni moi ne prétendons qu'il y a que Freud et en dehors de Freud, il n'y a rien de vrai. Hein, il y a eu des développements très importants en psychanalyse après Freud. Et nous appelons, enfin nous on est des psychanalystes amateurs, hein, nous appelons à toutes les réflexions, à toutes les qu'on peut utiliser en utilisant un peu cette même méthode et en utilisant pas forcément la théorie de Freud, mais les théories de Mélanie Klein, de Winnicott, de je ne sais pas quoi, enfin de tout un tas de grands psychanalystes qui ont fait de la théorie psychanalytique après Freud. Hein. Je connais moins bien Jung, je dois dire, je suis moins connaisseur de Jung, mais peut-être.
Le peu que j'en sache, effectivement, Jung attache beaucoup d'importance au mythe fondateur et pense que ces mythes se retrouvent dans différentes civilisations. Mais Freud également considère que les mythes de l'origine du groupe jouent un rôle clé. Son Moïse et le monothéisme, effectivement, est une tentative un peu imaginaire, hein, de fonder l'origine du peuple juif, en l'occurrence. Donc on retrouve cette préoccupation de voir dans les mythes de l'origine une explication des développements d'une formation sociale. Chez Jung, je pense que c'est un peu différent, et il fait appel à des mythes, je dirais, non datés historiquement, à des mythes qui relèvent du surnaturel, par certains côtés, autant que j'ai pu lire.
Robert Misraï.
Oui, merci. Moi, je suis comme le monsieur précédent, j'ai du mal à adhérer à votre démarche intellectuelle. C'est intéressant de prendre le marteau, mais le problème n'est pas forcément en forme de clou. Par ailleurs, le lien avec l'économie me paraît difficile à faire. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que les discussions très intéressantes, d'ailleurs, qu'il y a pu avoir sur l'Europe, etc., vous n'avez à aucun moment mobilisé votre arsenal théorique. Pour moi, c'est quand même une question. Par ailleurs, je trouve que c'est très intéressant, la démarche est intéressante d'aller chercher du côté des mécanismes humains qui fondent les fonctionnements des groupes pour tenter d'expliquer des mécanismes économiques. Je n'ai pas entendu, hein, je ne vous ai pas entendu là-dessus ou mal entendu. Je trouve que de ce point de vue-là, vous auriez eu intérêt, je serais intéressé à ce que vous alliez chercher du côté de l'anthropologie. Ça fait des années, des décennies, des siècles que les gens se posent cette question. Je ne vous ai pas senti sourcé de ce côté-là. Et je m'interroge sur cette question.
Oui, bon, enfin, je crois que vous avez, moi, je prends, enfin, les critiques tout à fait, je les accepte tout à fait. Vous voyez bien que nous avons une réflexion qui est, j'allais dire, à 80 et 90% économique et entre 10 et 20% psychanalytique. Hein, et on a beaucoup parlé de l'aspect psychanalytique au cours de cette soirée parce que c'est un peu l'originalité de notre démarche. Bon, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me projetais dans une théorie idéale, il faudrait être capable de remplacer, enfin, en économie, en gros, on a des individus qui sont rationnels et puis on en déduit un certain nombre de comportements, de lois économiques, etc. Et nous ne disons pas que ces lois sont fausses, nous disons qu'elles sont très importantes. Enfin, nous sommes des économistes, on est très, très soucieux de voir les conséquences des comportements rationnels du point de vue économique. Simplement, nous disons que idéalement, il faudrait une théorie dans laquelle les individus n'ont pas simplement une utilité constante ou une sorte de principe de décision uniforme, mais que on endogénéise la manière dont ces principes de décision se forment. Hein. Et cette endogénéisation est très complexe. Elle fait intervenir pas seulement un mécanisme d'adaptation, mais sans doute d'autres phénomènes que nous rattachons à la psychanalyse. C'est très compliqué. C'est au-delà de nos forces. Enfin, en tous les cas, on n'a pas été capable de le faire. Et je dis pas que c'est pas possible de faire des choses. Bon, et donc, en attendant, c'est vrai qu'on peut donner l'impression de surimposer les deux, de les juxtaposer parfois, et on a du mal à mener à la fois le discours économique et en même temps le discours psy. C'est vrai. Mais c'est aussi vrai que la psy apporte quelque chose d'incontestable à l'économie, en ce sens qu'elle explique comment les changements d'humeur, de psychologie interne, de fonctionnement du psychisme altèrent les décisions, les réalités économiques. Si vous voulez, c'est ça le sujet de notre démarche, en tous les cas. Alors, on le fait avec nos petits moyens. Il vaut mieux le faire avec les petits moyens et imparfaitement que ne pas le faire. C'est ça le point, la conviction que nous avons. Et on regrette, enfin moi je regrette, et je pense que Gérard regrette, que finalement les économistes ne le fassent pas assez ou ne s'y intéressent pas assez.
Pierre Fortum.
Oui, moi je voudrais revenir sur le titre de la conférence, Décrypter le chaos ambiant.
Alors vous avez échappé au titre, Décrypter le bordel ambiant. On n'a pas osé, voilà. Mais c'était comme ça l'idée.
Mais effectivement, là, c'est ce qui m'a attiré, ce qui m'a donné envie de venir ici. Et au fond, dans ce que vous avez dit, et je prends cette analogie entre le fonctionnement de la psyché individuelle et celle des groupes, moi, je la trouve intéressante en tant que point d'entrée. Au fond, un des aspects qui est à l'origine du chaos ambiant, si j'ai bien compris, c'est que finalement, c'est un peu, et vous l'avez décrit dans les différentes sphères, la finance, la démocratie, le capitalisme, c'est cette disparition ou cette dissolution, on va dire, du surmoi,
ouais.
de ce principe vertical d'autorité. Et la question que j'ai envie de poser, c'est au fond, est-ce que c'est dans l'absolu un problème ? C'en est un aujourd'hui, relativement, parce qu'on n'a plus de point de repère. Mais est-ce que c'est dans l'absolu un problème ? Et au fond, c'est quoi le mode de régulation émergent qui peut le remplacer ?
Je vais rajouter un petit mot, je comptais dire une chose. À quoi ça sert une théorie ? Est-ce que ça sert à expliquer de manière complète le monde ? Je ne suis pas sûr. Une théorie vaut parce qu'elle éclaire et parce qu'elle réfute, c'est-à-dire sur quoi elle permet de mettre l'accent. Moi, quand j'ai lu leur livre et le précédent, mais surtout l'analogie avec ce que disait Freud, une société écrasée par son surmoi, et aujourd'hui une société déboussolée par l'effondrement de son surmoi, et cette idée d'avoir une force de vie, le ça, qui peut aller pour le bien ou pour le mal, qui doit être régulé par un moi, lequel est appuyé par un surmoi, c'est un modèle assez simple, un peu rustique, c'est ça. Mais je trouve que l'opposition entre la société telle que la voyait Freud et la société d'aujourd'hui donne vraiment à penser. Et la deuxième idée, c'est qu'au fond, l'effondrement des surmois, des règles communes et l'affaiblissement du moi, c'est quand même un problème qui peut devenir extrêmement préoccupant pour les sociétés. Et il suffit de regarder l'actualité, pas seulement économique, pour s'en rendre compte. Et je trouve que ça, enfin moi, c'est ça que j'ai trouvé d'intéressant dans leur approche, c'est des clés de lecture qui donnent à penser.
Non, question, alors je peux l'interpréter dans les termes que j'avais utilisés tout à l'heure, c'est-à-dire le chaos et après.
Oui.
C'est ça. Donc on a tenté d'imaginer des scénarios, et très timidement. Donc il y a un chaos dans lequel on prolonge les tendances à l'œuvre et on débouche sur une utopie négative d'un monde régulé par un État qui est à la fois un État-providence et en même temps un État-gendarme, puisqu'il faut contenir les pulsions irrépressible du ça. Ça, c'est un scénario plutôt négatif. On peut imaginer que le nouveau malaise se voit substituer une autre formation psychique différente, qui ferait renaître soit un surmoi, soit quelque chose, qui serait un principe régulateur. Donc, puisqu'on est passé d'un psychisme à la mode viennoise, décrit par Freud, au psychisme de nos contemporains, qui est relativement débridé et sans boussole, pourquoi ne pas imaginer que demain, on puisse passer à une autre forme, une autre formation psychique dans le monde moderne. Alors, pour nous guider dans cette voie-là, je pense qu'il faut imaginer que butant sur des contraintes, puisque c'est comme ça que le ça maintenant se régule, il bute sur des contraintes, il y a un principe de dualité qui veut que, associé à une contrainte, il y ait une valeur, il y ait un prix. C'est un principe mathématique, c'est-à-dire un principe de dualité qui ferait que à la contrainte écologique dont nous parlions tout à l'heure, soit associée une valeur qui est la préservation de la terre, la préservation de l'environnement, qui soit une valeur internalisée. Et associée à une valeur de ce type, il peut y avoir des valeurs liées à la mère nourricière, à la terre, et peut-être des valeurs de solidarité qui apparaissent de ce fait-là. Donc on peut imaginer une transformation du psychisme de nos contemporains dans les décennies à venir et qui fasse naître de nouvelles valeurs, mais ces nouvelles valeurs émergeraient comme réponse à des problèmes dans lesquels on se heurterait à des limites. C'est à partir de ce choc sur les limites que naîtraient de nouvelles valeurs. Bon, ça reste très, très hypothétique tout ce que je dis là, mais on peut imaginer des scénarios de ce type plutôt que de prolonger la situation actuelle qui n'est pas très.
On peut imaginer des retours de surmoi fort sous forme de religieux intégristes. On peut aussi voir des pouvoirs autoritaires forts. Enfin, je veux dire, on peut voir assez facilement. D'ailleurs, on voit s'esquisser dans différentes parties du monde des retours de surmoi fort.
Effectivement, je crois que nous, nous sommes limités quand même à nos contemporains occidentaux.
Oui, oui.
C'est vrai que la psyché de nos voisins, dans les autres, sur les autres continents, n'est pas du tout la même. Hein. Ils sont dans des phases où ils ont construit un psychisme complètement différent. Il peut y avoir effectivement des tentations autoritaires dans des sociétés qui n'acceptent pas la satisfaction des pulsions à tout prix, et donc des retours de l'autorité, on le voit dans certaines parties du monde. Donc,
oui.
Je veux dire, on ne peut pas transposer ce que nous disons à des formations sociales qui sont peut-être proches géographiquement, ils sont très lointaines en termes psychiques.
On va prendre une dernière question, Charles Canetti.
Charles Canetti, dirigeant de transition. Vous avez presque répondu à ma question, c'est que je me demande si une partie du problème n'est pas le choc entre des pays dans lesquels l'affaiblissement du moi et du surmoi va à des vitesses très différentes. Et donc, on a des concurrences entre modèles.
Oui, effectivement. Il y a un paragraphe, on dit l'Occident face à l'autre, face aux autres. Donc, ça peut amener une tectonique des plaques qui peut être assez difficile et provoquer des crises d'une autre nature. Si les psychismes de nos voisins, de nos partenaires sont très différents du nôtre, on a d'abord énormément de mal à se mettre à leur place, et eux à la nôtre, et donc on peut aboutir à des situations conflictuelles ou tout au moins d'incompréhension, certainement.
Et puis il y aura même, dans cet univers de transmission horizontale, il y aura aussi des contagions qui ne sont pas seulement de l'univers du psychisme occidental vers le psychisme asiatique ou je sais pas quoi, ou moyen-oriental ou je sais pas quoi, mais ceux qui seront aussi dans l'autre sens. Donc enfin, ça, malheureusement, on n'en sait rien.
Alors pour le sujet de la prochaine soirée, j'ai déjà le sujet. C'est un sujet, un paradoxe. C'est que à chaque élection, on discute du temps de travail, de la suppression des 35 heures, qui est une cause définitive de nos difficultés. Donc on débat énormément du temps de travail sur la place publique. Et ce qu'on peut voir dans l'entreprise, c'est en gros, surtout, on touche rien. Ça a été tellement difficile de mettre en place les 35 heures qu'il semblerait que la plupart des entreprises n'ont qu'une idée, c'est de rien toucher. Et donc c'est autour de ce paradoxe qu'on voudrait faire notre prochaine soirée. J'ai aussi une date qui est le 13 octobre, mais je n'ai pas encore la salle parce que ici la salle sera en travaux, donc je cherche. Donc vous serez prévenus en son temps. Merci en tout cas pour cette soirée.